Et c'est en compagnie d'Isabelle Morizet et de l'actrice Carole Bouquet que se poursuit la soirée. C'est « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » sur Europe 1. Révélé au cinéma en 77 avec le film « Cet obscur objet du désir » de Buñuel, elle nous raconte son enfance, ses débuts au cinéma, mais aussi sa vie au milieu des vignes italiennes.
Europe 1.
Bonjour Carole Bouquet.
Bonjour.
Carole Bouquet, dans le film « Trop belle pour toi », Bertrand Blier vous faisait dire devant la caméra « Aux uns et aux autres, je demande pardon. Je sais que je suis un peu trop belle. » Alors sincèrement, entre nous, quelle sorte d'amie est la beauté? C'est une amie exigeante?
C'est pas ni une amie, ni une ennemie. C'est un cadeau. Un cadeau que vous fait, je sais pas, les dieux, le ciel, je sais. Après, un cadeau... Quand il est très gros, le cadeau, et qu'il est très beau, et qu'on est très jeune, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment l'ouvrir, il a un gros ruban, et on ne sait pas comment le prendre, et parce que ça a à voir aussi avec la séduction, et que quand on est adolescent ou très jeune femme, c'est quelque chose qui vous fait peur, qu'on vous regarde et qu'on attend de vous plus que vous ne pouvez donner, parce qu'il y a beaucoup d'attention qui est portée sur vous et on essaye de donner une réponse et forcément on ne l'a pas quand on est tout jeune. Donc c'est un merveilleux cadeau, mais au départ embarrassant. Voilà.
Parce qu'on est d'abord ce qu'on voit de nous. Est-ce que vous vous ressemblez?
Il y a un âge où on finit par se ressembler, forcément. Et je ne suis plus une gamine. Mais quand on a 19 ans, 18 ans, le premier film que j'ai fait s'appelait « Cet obscur objet du désir ». Je sais bien que, même si c'est mon premier film, que ça va jouer sur un malentendu, sur un fantasme qui n'a vraiment rien à voir avec moi. Et je suis d'accord avec ça. Dès le début, et je sais qu'il me faudra du temps, dès le début, pour que les lignes bougent, pour que les metteurs en scène aient plus d'imagination, mais qu'il me faut du temps pour ça, parce qu'il faut qu'ils aient envie, le désir de me mettre ailleurs que dans... Vous parliez d'icônes, vous parliez de... Voilà, je ressemblais à une tête de Madone. C'est-à-dire que pour Buñuel, moi je travaille avec lui, il a 77 ans, il est né en 1900. Je ressemble aux peintures de son enfance, donc j'y suis pour rien si je suis dans le film.
Alors, parlons de qui vous êtes. Cette énergie presque masculine qui a permis que, parallèlement à votre vie d'actrice, vous soyez devenue viticultrice, est-ce qu'elle est en fait due à une éducation masculine?
Oui, mais j'ai par exemple toujours l'impression que j'ai rien fait. J'ai toujours l'impression que je suis une dilettante. J'ai toujours l'impression qu'au fond, c'est pas moi qui l'ai fait ce vin. Il faut que je voie des images de moi... Sur place, à Pantelleria, dans le chai que j'ai construit pour autant, et c'est vrai, il n'y avait pas de citerne, on a creusé les citernes, cette terre était abandonnée, je lui redonnais vie, mais j'y crois toujours pas. Et de temps en temps, si je vois des images qui me ressemblent, et j'entends surtout la voix, je me dis, tiens, ben, c'est moi et qui l'ai fait, mais il y a toujours un sentiment, très longtemps ça dure chez les acteurs, on a l'impression qu'on usurpe quelque chose. J'ai pas compris comment je suis arrivée jusqu'à effectivement faire du vin parce que je l'ai pas vu arriver. Mais c'est faux puisque j'avais besoin de cette terre, j'avais besoin du sud de l'Italie, j'avais besoin de ses racines et de cette histoire-là. Il y a des moments où je me demande pourquoi j'ai besoin que les choses deviennent matériellement pour que je puisse les appréhender. Il faut que je puisse les toucher, il faut que je puisse, et il a fallu que je fasse un vin, quelque chose qu'on boive, qu'on déguste, quelque chose de physique. Au fond, pour donner une réalité à des désirs, à des envies. Quelquefois, la route est franchement longue et tortueuse.
La route est tortueuse. Alors justement, on va dérouler ce fil et on va partir de l'enfance, Carole Bouquet. Vous êtes née à Neuilly-sur-Seine. Votre père était centralien. C'était un homme austère qui ne parlait pas. Et c'est lui seul qui vous a élevé, qui a eu la responsabilité de votre éducation sans présence maternelle. Alors, il y a une chose qui m'intrigue. Simone de Beauvoir affirmait dans son livre « Le deuxième sexe » qu'on ne naît pas femme, on le devient. Mais vous avez le sentiment que la féminité, ça se transmet ou ça se découvre?
Je pense que ça se transmet. Je pense que... Mais par contre, si, moi je pense qu'on est femme. Mais je comprends que Simone de Beauvoir l'ait dit au moment où elle l'a dit, c'était même nécessaire de le dire. Mais la féminité, je pense qu'elle se transmet.
Oui. Alors qui vous l'a transmise?
Personne. Je l'ai apprise, effectivement, je l'ai apprise sur des plateaux de cinéma. J'ai appris en faisant semblant. J'ai appris très tard en mettant un costume. C'était comme un déguisement. Alors maintenant, ça y est, je rentre dans le costume. Mais quand même, de temps en temps, il n'est pas à la bonne taille, le costume, parce que c'est pas le mien depuis la toute petite enfance.
À l'adolescence, vous avez fait de l'athlétisme et vous avez été sélectionnée pour les championnats de France. Vous excelliez dans quelle discipline ?
La course à pied.
Mais pas
le marathon, hein, le sprint.
D'accord. Est-ce qu'il est vrai ?
J'avais déjà pas la patience.
Vous êtes une sprinteuse. Est-ce qu'il est vrai que vous avez finalement arrêté la compétition ? Car lorsque vous rameniez des coupes, il n'y avait personne, jamais, pour vous féliciter.
Oui, j'ai été. Je me souviens. Je crois que j'ai l'impression que c'était encore hier, ça, de gagner une compétition et de me dire, mais à quoi ça sert ? Pour qui je le fais ? J'étais pensionnaire à ce moment-là, même l'école, même les n'ont pas eu l'air d'apprécier, si je puis dire. Donc, ouais, j'ai arrêté, oui, du jour au lendemain.
On fait donc décidément pratiquement toujours les choses pour les autres, pas pour soi.
Ça dépend. Je sais pas comment les autres font. Vous savez ce que vous faites maintenant. J'avais des idées beaucoup plus arrêtées il y a quelques années que maintenant. Moi, je le fais pour les autres, oui. Faire des choses pour moi toute seule m'ennuie terriblement. Je veux dire, moi avec moi, sinon je ferais un autre métier. Je pense qu'acteur, contrairement à ce qu'on est en train de faire en ce moment et qu'on fait souvent maintenant les acteurs, c'est parler de soi. On le fait pour ne pas parler de soi. On fait pour raconter les histoires des autres.
Mais je sais qu'on va se reconnaître dans tout ce que vous nous dites. On s'arrête sur l'année de vos 15 ans, Carole Bouquet. Acte de rébellion. Il paraît que pendant plusieurs semaines, vous avez échappé à la surveillance de votre école pour aller vous enfermer dans l'obscurité des salles de cinéma des Champs-Élysées et dévorer avec boulimie tous les films à l'affiche. Vous rêviez de cinéma ou, plus concrètement, vous rêviez de vous enfuir ?
Non, je rêvais de m'enfuir, oui. Oui, ça a duré des mois même, là.
Des mois ?
Des mois.
Et votre père ne recevait pas de billet d'absence de la pension ?
Si, mais là, c'était pas la pension. Hein. J'étais plus en pension, parce que sinon, effectivement, il l'aurait su avant. Mais je faisais des comptes rendus détaillés de mes journées fausses à l'école. Donc, et il n'était pas du tout méfiant, mon père. Du tout. Il me faisait... Voilà une chose extraordinaire que j'ai apprise de lui. Il me faisait totalement confiance. Et même dans les moments où, au fond, il aurait pu s'inquiéter, il a continué à me faire confiance. J'ai appris ça et je m'en suis servie pour mes enfants. Il se servait, je crois, de ce qu'il savait de moi, petite fille, en se disant, je connais cet enfant, je connais son caractère. Donc, au fond, c'est des vicissitudes, c'est rien, c'est des petits branchages qui la font dévier un instant, mais c'est pas plus grave que ça, ça ne change pas qui elle est. Donc je lui ai fait pique-pendre, mais ça n'avait pas l'air de l'inquiéter tellement. Et du coup, ça ne prenait pas d'immenses proportions même dans ma tête. Alors l'histoire du cinéma, oui, j'y suis allée pendant des mois. Puis après, j'ai recommencé, d'ailleurs, parce qu'après, je suis retournée à l'école, puis après, j'ai recommencé de nouveau. Mais il l'a su parce qu'un jour, effectivement, il m'a dit, va voir ce qu'il y a sur mon bureau, après lui avoir dit comment j'avais passé ma journée. Et il y avait l'école qui était inquiète et qui demandait, il disait, on n'a pas vu votre fille depuis des semaines, que se passe-t-il ?
Qu'est-ce qu'on répond à son père dans ce cas-là ?
On met d'abord des heures à lire quelques lignes, et on les lit, et on les relit, et on n'a bien évidemment pas de réponse. Et j'ai dit la vérité, j'ai dit je vais au cinéma, il ne m'a pas cru. Il ne m'a vraiment pas cru. Il s'est dit, bon, il y a peut-être un jeune homme, il y a des amis, mais il n'était pas plus inquiet que ça. Mais il n'a pas pensé du tout que j'allais effectivement au cinéma, c'était permanent, toute la journée.
Europe 1.
Suite de la conversation intime entre Isabelle Morizet et Carole Bouquet dans « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » sur Europe 1. Et Carole Bouquet évoque le rôle qui a lancé sa carrière d'artiste après ses premiers pas en cours de théâtre.
Carole Bouquet, on vient de vous quitter adolescente solitaire dans les beaux quartiers. On vous retrouve dans un dîner en ville, précisément chez le modiste Jean Bartet. Il y a du beau monde autour de la table. Et vous, qui n'avez que 17 ans, eh bien on vous place à côté du réalisateur-producteur Serge Moati. D'abord, qu'est-ce que vous faites dans ce dîner parisien ?
Je ne me souviens pas bien d'ailleurs. Je ne comprends pas comment j'ai atterri là. Mais mes jolis cheveux longs, je ne sais pas comment. En plus, j'étais très, 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 très timide. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Mais peut-être que je deviens timide au moment où je commence à faire ce métier, plus timide que je ne l'étais avant.
Parce que vous sentez le poids des regards sur vous.
À ce moment-là, quand tout d'un coup, jusqu'au moment où, au fond, j'énonce le désir à la question, où je réponds à Serge Moati qui me dit « Que voulez-vous faire, mademoiselle, dans la vie ?» et que je lui dis « Actrice », je pense qu'au même moment où je le dis, je découvre que c'est ça que j'ai envie de faire. Plus exactement, c'est pas actrice, justement, non, c'est faire du cinéma. La seule chose qui m'est venue à ce moment-là comme réponse, bah, c'était actrice.
Et donc, il m'a pris au mot. Serge Moati, voilà, vous prend au mot et vous dit, mais alors mademoiselle, il faut vraiment vous inscrire au conservatoire.
Oui, parce que je crois qu'il m'a pas prise très au sérieux. Mais moi, entre-temps, je l'ai pris très au sérieux. Je suis allée m'inscrire au concours du conservatoire et je l'ai rappelé la veille en disant, moi, je suis inscrite, mais j'ai pas l'acteur, parce que j'avais été pendant quand même faire quelques cours de théâtre. Mais pas suffisamment pour apprendre vraiment des textes, avoir des amis acteurs. Donc je l'ai rappelé en lui disant, mais je n'ai pas d'acteur, je n'ai pas de texte.
Donc
et
il
le
vous
concours
manquait
est demain.
En fait un camarade pour présenter une scène, ah c'est bah, ça vous êtes inscrite, paraît-il, moins d'une semaine avant les épreuves.
Oui, mais oui, on a répété la veille. Hein. On a vraiment répété la veille. Il a pris les acteurs avec lesquels il travaillait sur, à ce moment-là, une série de télévision très connue qu'il avait faite, que je ne connaissais pas du tout. Et on a répété la veille et j'ai passé le premier tour du conservatoire. À ce moment-là,
vous passez le premier tour, vous passez
le deuxième tour où Rosner va le voir, le directeur du conservatoire va le voir parce qu'ils se connaissent et lui dit, techniquement c'est affligeant, mais bon, je comprends bien parce qu'effectivement elle ne sait pas, mais elle est de dos quand même. Donc qu'à cela ne tienne, je me suis mis de face.
Et vous voulez dire, Carole Bouquet, que vous avez présenté une scène pour entrer au conservatoire en jouant intégralement de dos, alors qu'on ne l'avait pas
demandé. La première fois, je pense, légèrement de profil. Un peu de profil, mais j'osais pas trop montrer. Donc un peu de profil et beaucoup de dos. Et une fois que je suis au conservatoire, une fois que je suis à l'intérieur, que je regarde autour de moi et que je vois tous ces jeunes acteurs tellement talentueux, ayant fait des écoles, travaillant depuis des années, ayant des avis, étant cultivés... Là, j'ai pris peur et ça m'a rendue muette. Je n'ai plus travaillé du tout au conservatoire et je n'ai jamais passé une scène au conservatoire.
Alors, vous n'avez plus travaillé du tout au conservatoire. Heureusement qu'il y a eu cet appel. Cet appel, en fait, la proposition donc inespérée pour la comédienne inconnue que vous étiez. Un rôle phare dans un film de Louise Buñuel. Vous avez à peine 20 ans, vous sautez dans un avion pour Madrid et là, vous découvrez l'univers fou et surréaliste de Buñuel. Vous aviez davantage de raisons d'avoir peur, non ?
Est-ce que oui, j'avais 19
vous êtes
ans,
partie j'étais... toute seule avec votre petite valise ? Il n'y avait personne pour vous soutenir, vous protéger, vous mettre en garde ?
C'était bien pire et en même temps plus merveilleux que ça. Et pire. J'étais au conservatoire et le téléphone a sonné parce que j'avais vu Buñuel. Et il ne m'avait pas prise pour faire le film. Et le téléphone sonne et quelqu'un me demande ce que je fais en ce moment, en me disant qu'il est le directeur de production du film de Buñuel. Et je ne trouve pas la plaisanterie très agréable, je trouve que c'est méchant. Et je raccroche. Il a rappelé et j'ai raccroché de nouveau. Et c'est parce que, après, quelqu'un a sonné à ma porte, le même homme, et m'a dit, écoutez, cette fois-ci, vous n'allez pas me fermer la porte au nez, qu'il m'a amené les costumes en me disant, amenez ces costumes sur le tournage, s'il vous plaît. Voilà un billet pour aller à Madrid. Et je lui ai demandé ce que j'allais faire. Et il m'a dit, je ne peux pas vous le dire. Je lui ai dit, mais c'est une histoire de fou. Je ne peux pas m'envoyer à Madrid. Moi, je savais qu'ils étaient en train de tourner. Il y avait une actrice qui tournait à ce moment-là.
Maria Schneider.
Et il me dit, mais je ne peux pas vous dire ce que vous allez faire là-bas. Je lui ai dit, j'y vais pas. Alors, vous avez comme les sales gosses. Je lui ai dit, mais moi, je me souviens très bien, parce que c'est une comparaison absurde. Je lui ai dit, mais c'est comme la traite des blanches. Vous ne m'envoyez pas. Il m'a dit, mais écoutez, faites-moi confiance. Allez-y. Et je n'avais pas lu le scénario à ce moment-là. Donc, je l'ai lu dans l'avion. Et dans l'avion, il y a un scénario avec le rôle d'une jeune femme. Donc je me dis, bah, la seule chose que j'ai pu imaginer, je me dis, bon, bah, ils ont écrit un autre rôle. Ils ont écrit un autre petit rôle. Et je suis arrivée à l'aéroport de Madrid et on m'amène dans un hôtel où on me dit que ce n'est pas l'hôtel où il y a l'équipe du film. Et on me dit, pour l'instant, on ne peut rien vous dire. Alors j'attends. Et puis arrive pour le dîner le premier assistant qui me dit, alors, Carole, on a un problème. Buñuel ne le sait pas. On a pris la décision avec le producteur de vous faire venir sans que Buñuel le sache, car il veut arrêter de tourner. Il ne s'entend pas, ça n'a rien à voir avec ses talents d'actrice, il veut arrêter le film. Le producteur ne le souhaite pas, mais en même temps, lui, il veut repartir, il habite à ce moment-là au Mexique, il veut repartir au Mexique. Donc demain, vous faites des essais avec Fernando Rey, vous allez répéter, je vais vous montrer les scènes, et puis on va lui dire demain que vous êtes là, et après demain, il va venir et il va regarder les essais. Et puis il me rajoute, mais vous n'êtes pas toute seule, il y a une autre jeune femme qui vient faire la même chose que vous. Alors je me souviens les essais, je répète toute la journée avec Fernando Rey, adorable. Et entre-temps, on s'est rencontrés toutes les deux, puisqu'on était dans le même hôtel et qu'on avait le même âge et pour les mêmes raisons. Donc on s'est parlé, et je me souviens, on était en train de parler au bar, on avait déjà fait donc les essais l'une et l'autre. Et je vois arriver le producteur du film qui sourit, qui regarde les deux et sourit. Je me suis dit, cet homme est pervers. Cet homme est méchant et pervers, car il y en a une des deux qui ne va pas faire le film et il arrive en souriant. C'est horrible ce qu'il est en train de faire. Donc quand il dit à l'une et immédiatement à l'autre. Tu fais le film, mais toi aussi, tu le fais. Ni l'une ni l'autre, trop contente de faire le film. Nous sommes posés la question en disant, attendez, on va jouer le même rôle? On n'a rien demandé, on n'a pas posé de questions, on est allé dîner, on est allé faire la fête. Et ça a continué comme ça pendant tout le film.
Mais... Où commence le film? Où s'arrête son scénario? Où démarre la vie vraie? L'univers de Buñuel déborde sur la vie vraie.
Mais complètement, mais ça c'était normal. Pour moi, c'est à ça que ressemble le cinéma, c'est comme ça que doit être le cinéma, c'est-à-dire une surprise surréaliste, oui.
Carole Bouquet, comment se fait-il, 2 ans plus tard, qu'on vous retrouve à New York, dans la bande de Andy Warhol, partageant votre temps entre le Studio 54 avec Mick Jagger et Bianca, et puis la Factory, l'atelier de Warhol, et tournant dans un film punk?
À cause de Buñuel, justement, parce que le film était sorti à ce moment-là à New York, et en même temps était sélectionné pour les Oscars, où il a gagné d'ailleurs l'Oscar du meilleur film étranger. Et que, au moment de la sortie du film, j'avais fait des photos pour un journal qui appartenait à Andy Warhol, qui s'appelait Interview. Donc, quand je suis revenue à New York, pour échapper à un metteur en scène de théâtre qui avait vu le film de Buñuel, qui m'avait demandé de jouer les trois sœurs, c'était au Théâtre de la Ville. Je lui ai dit non, je ne sais pas faire ça. Et il m'avait dit, mais si, je vous ai vu dans le film de Buñuel. Je lui ai dit, non, ça n'a rien à voir. Moi, je lui ai dit que je voudrais faire des essais. Et je suis allée au Théâtre de la Ville, il m'a fait traverser le plateau et il m'a dit, c'est bon. Je lui ai dit, non, comment ça, c'est bon? Vous n'avez rien vu, là? Et il m'a dit, si, j'ai vu.
Donc vous allez nous faire croire, Carole Bouquet, que les metteurs en scène sont décidément et définitivement les gens les plus fantasques de la planète.
Les bons metteurs en scène sont très fantasques, oui. Ben oui.
Mais quand je dis fantasque, avec la dose de danger que ça comporte.
Oui, oui, absolument.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Reviens tout de suite sur Europe 1. Carole Bouquet nous racontera sa vie de viticultrice sur l'île italienne de Pantelleria. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie continue sur Europe 1. Carole Bouquet nous raconte sa passion pour les vignes et comment elle est parvenue à amadouer les paysans siciliens.
En fait, Carole Bouquet, l'île de Pantelleria, dont vous avez fait votre royaume, cette île battue par les vents entre la Tunisie et la Sicile, cette île où vous produisez chaque année 14 000 bouteilles d'un vin blanc intense comme un hectare, paraît-il, j'ai pas eu le bonheur de le goûter, et bien il paraît que c'est Isabella Rossellini qui vous l'a fait découvrir. Alors, comment vous êtes laissé prendre par les sortilèges de cette île, sans eau, sans électricité au départ, lorsque vous y êtes arrivé, et puis écrasé par un soleil violent?
Oui, je pense que c'était le paradoxe de la violence de l'endroit et la volupté de ce que produit cette île. L'île volcanique, faite de pierres noires, d'obsidienne, et en même temps d'une douceur incroyable. Et j'ai besoin de l'Italie, j'ai besoin de sa lumière, j'ai besoin du sud de l'Italie pour son histoire. Parce que j'ai l'impression que je viens de là, parce que j'ai pas dans ma famille l'impression, ni dans mon cœur, d'avoir des racines, vraiment. Donc, je suis bien dans le sud de l'Italie parce qu'il y a des siècles, à un moment donné, sur un monument de culture, et que je me dis que je viens de là. Mais en même temps, d'aller s'installer à côté de Rome, c'est impressionnant. J'allais pas m'installer près d'un monument. Pantelleria, c'est ça, c'est des siècles où j'ai l'impression de ma culture, et en même temps, ce n'est que de la terre travaillée par l'homme. Il n'y a pas des œuvres d'art partout qui m'auraient impressionné, ou j'aurais pas osé, au fond, avoir un petit bout de terre en me disant « je suis de là ». Parce qu'au départ, c'est pas du tout pour faire du vin, c'est juste pour avoir un petit bout de terre et mettre les pieds sur cette terre et me dire « voilà, j'appartiens à cette terre ».
Mais il paraît que lorsque vous avez annoncé à vos amis que vous portiez acquéreuse donc d'une petite maison mise en vente avec au départ 2 hectares de vignes, d'oliviers, de capriers presque à l'abandon, eh bien vos amis ont hurlé, ils vous ont dit que vous étiez absolument folle.
Oui, ils m'ont dit de ne pas le faire. Alors la première fois, je ne l'ai pas fait, puis je suis allée en cachette le faire l'année d'après. En me disant, mais il m'enquiquine, parce qu'on me disait, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, tu ne te rends pas compte. Enfin, d'ailleurs, je ne me rendais pas compte, et tant mieux, parce que sinon, on ne ferait rien, et je ne l'aurais pas fait, et je n'aurais rien fait de ce que j'ai fait sur cette île. Je ne savais pas pourquoi j'avais envie de cette terre, et besoin, voilà, et puis de ce tout petit bout de terre, ça a grandi.
Alors justement, ça a grandi, on va parler de l'aventure du vin, mais Carole Bouquet, une femme, une star française chez les Siciliens, vous deviez bien vous douter que l'aventure allait être compliquée.
Non, Mais non.
Parce non, que... pas du tout.
Non, j'ai pas, parce que d'abord, c'est venu petit à petit. Je suis pas arrivée un jour en disant, en conquérante, en disant je suis italienne, je vais devenir vigneronne. Non, j'arrive, je parle cette langue et j'aime ce pays et j'achète quelques pierres au départ. Vraiment, dans un endroit perdu où je m'immisce. Au fond, j'arrive très discrètement, doucement, et petit à petit, c'est deux oliviers qui sont abandonnés au départ, et c'est une toute petite terre.
Il paraît que vous avez racheté effectivement acre par acre des parcelles de vignes aux paysans de Lille. Vous avez donc fait construire votre propre chai, et comme par hasard, eh bien, votre première vendange... Elle a disparu, elle s'est volatilisée, le camion s'est perdu. C'est quand même extraordinaire
parce
comme
que,
histoire.
Oui, c'est vrai. La première fois que j'ai vinifié, c'était pas chez moi. Et parce qu'au bout d'un moment, la terre, au fond, je me suis demandé ce que j'allais en faire de cette terre à qui j'avais redonné la vie. Et je suis allée vendre le raisin, j'ai trouvé ça dommage. L'année d'après, je suis allée vinifier chez quelqu'un, j'étais pas heureuse du résultat. Je l'ai dit, on m'a dit, mêle-toi de ce qui te regarde. Et là, l'aventure commence. Et ça part comme un défi, comme un truc de gamin, où vous embarquez et puis après vous ne pouvez plus arrêter.
Mais le camion volé.
Alors le camion volé, j'ai déjà construit le chai. Effectivement, c'est la première fois que je dois vendanger pour moi. Et on a vendangé avant une pluie. Donc le raisin que j'ai est extrêmement rare et il disparaît. Et quelqu'un est venu me dire où il était. Donc un soupçon de jalousie de la part de ceux à qui j'avais dit au fond... que j'aimais pas ce qu'ils faisaient. C'était pas les Siciliens, c'était pas les gens de Pantelleria. Ça a à voir avec une histoire très particulière de quelqu'un à qui je dis laissez-moi faire, à qui on me dit mais tu sais pas faire. Et je dis mais je vais apprendre.
Mais alors vous avez dû passer par beaucoup d'autres choses encore pour amadouer ces paysans siciliens et puis surtout les convaincre que vous aimiez leur terre autant qu'ils l'aiment.
Oui, mais il y en a très peu que j'ai dû amadouer. Et comme partout, il y a des cons. mais là-bas, moins qu'ailleurs. Et les gens avec qui je fais ce vin, c'est grâce à eux. Nunzio, qui est mon vigneron, je peux lui faire une statue. Cet homme que j'ai convaincu, parce qu'il avait abandonné. Le premier hectare, c'est à lui que j'ai acheté. Il ne vivait pas de sa terre. Il l'avait laissé depuis déjà 20 ans. Il était devenu pêcheur. Après, les lois européennes font qu'il a dû détruire son bateau. Donc, quand j'arrive à ce moment-là, je entrer dans l'aventure avec moi, il me dit, mais moi, j'ai jamais vinifié. Je lui dis, mais si, tu le fais depuis que tu es enfant. Et je suis allée chercher un œnologue dans le Piémont. Donc, l'aventure s'est construite au jour le jour. J'ai pas imaginé un jour, j'ai pas rêvé un chai, j'ai pas rêvé la machine pour mettre en bouteille, j'ai pas rêvé d'avoir une note dans One Spectator, j'ai pas rêvé. Ça s'est fait au jour le jour. Et puis, c'est comme quand vous apprenez à marcher. À un moment donné, ben voilà, vous faites un deuxième pas et un troisième. Et puis, et tout d'un coup, il y a un chemin. Vous avez avancé. Et puis, voilà. Maintenant, il existe.
Alors, il existe ce vin que vous avez baptisé le sang d'or, Sangue d'oro.
Oui,
alors,
Sangue d'oro.
Sangue d'oro. C'est beaucoup mieux dans la bouche de Carole Bouquet. Il paraît qu'il est assez difficile à faire ce vin avec des manipulations réalisées par les femmes de cette île, le fait
entre
de
autres,
retourner
oui,
les grappes.
Une partie des vendanges est séchée au soleil. C'est une grande partie parce qu'après, on s'en servira que d'un tiers. Mais pour arriver à ce tiers, il en faut, puisque c'est du raisin qui sèche, il va perdre forcément tout son liquide. Donc, on le met par terre, on le fait sécher au soleil au mois d'août et on le retourne tous les deux ou trois jours sur le sol pour le faire sécher. Ça, peu de gens veulent bien encore le faire, car il fait très chaud et que physiquement, c'est très, très difficile à faire. On pourrait le faire sécher dans des fours, on pourrait le faire sécher d'une autre manière, mais à ce moment-là, ça ne prendrait pas les arômes qu'il prend, ce raisin, qui est du muscat d'Alexandrie, qui va devenir donc du Malaga, si on le met sur le sol de Pantelleria, qui veut dire effectivement île du vent, qui est plus proche de la Tunisie, donc c'est les portes de l'Orient.
Ouais. Donc il dit que
c'est... Et l'hiver, maintenant, en ce moment, il y a des femmes, et il n'y a plus qu'elles qui veulent le faire, qui vont, pas dans leur cuisine, sinon ça prendrait les odeurs de la cuisine, dans leur salon, et grapper. Prendre la grappe
dans
de raisin,
leur
grain
salon.
Par grain. Oui, grain par grain, sur des tonnes. Vont sélectionner, voilà, et après on va rajouter ces grains de raisin dans les cuves.
Carole Bouquet, en fait, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous régentez ce vignoble sicilien, un petit peu comme Scarlett O'Hara.
Mais peut-être,
régentez Tara.
Oui, mais hein? Je pense que ça a à voir avec ça aussi.
Parce que vous avez vu ce film dans votre enfance, vous avez été marquée par l'énergie masculine, cette espèce d'enthousiasme
féminine.
Fou.
Féminine, énergie
vous
féminine.
Vous revendiquez que quand elle est aussi positive, elle est féminine,
l'énergie. Ah oui, je revendique absolument quand elle est debout, droite, en parlant de sa terre, oui, je me suis identifiée à cette femme. Alors, j'espère que c'est pas à ce point-là. Je suis pas aussi folle
non,
que
va,
ça.
On va occulter la dernière scène du film.
Mais féminine,
alors,
absolument.
Belle réussite, parce que vous êtes désormais distributeur de votre vin, Carole Bouquet, et vous avez reçu un prix de la Chambre de commerce de Sicile pour le meilleur Passito.
Oui.
La Chambre de commerce de Sicile a donc décerné un prix
à une française,
à une actrice française pour son vin. Mais que se passe-t-il chez les Siciliens?
Parce que quand c'est pas moi qui boive, c'est le vin. Et effectivement, parce que c'est mon œnologue, c'est cette terre, c'est les gens qui la travaillent, c'est mon vigneron, font un travail héroïque. Et que après, il y a des notes dans le vin, et que quand des journaux qui font la loi du vin, après on en fait des films, on les critique, mais c'est toujours eux qui font la loi, donnent une très bonne note à ce vin, et ben c'est le travail d'années et d'inconscience, de folie. voilà.
Votre nom ne figure pas sur les étiquettes de
si,
vin
si. Si,
ah,
si,
maintenant
si.
Il figure.
Si, si, oui.
Parce
si.
Que très longtemps, il n'a pas figuré oui. sur le sang.
Il y a mon nom parce que. Alors là, il faut retourner à un peu de modestie. Pour faire de la communication, pour vendre un vin, encore une fois, c'est pas moi qu'on boit du tout. Et si le vin n'est pas bon, on ne le boit pas. Et ça, pour les sommeliers, c'est encore pire d'ailleurs. Parce qu'une actrice qui fait du vin, c'est pour eux, ils n'ont presque pas envie de boire. Mais si jamais c'est bon, alors là, ils vont faire un effort. Parce qu'ils savent la difficulté et qu'au départ, ce n'est pas mon métier. Donc, voilà, ils s'intéressent à cette aventure. Et pour que je puisse communiquer, il faut qu'il y ait mon nom dessus pour que je puisse en parler.
Votre table sur l'île de Pantelleria est réputée. Elle est réputée au point que souvent, vous avez 15 à 20 personnes à la maison. C'est vous qui cuisinez.
Ah non, non, non. C'est le directeur de la centrale électrique de l'île.
J'adore vous avez ça engagé parce que... tout le monde.
Non, oui, non.
Vous allez finir maire de l'île de Pantelleria.
Ah, je voudrais bien, je ne voudrais pas. Parce qu'on est tous à vouloir résoudre des problèmes sur cette île. Mais le rythme d'une île, c'est... voilà. On rouspète et en même temps, c'est pour ça qu'on l'aime. Et en Sicile particulièrement. On est toujours au temps du guépard. Hein.
Toujours au temps du guépard. Mais vous n'êtes pas parfois fatiguée, Carole Bouquet,
si.
Quand t'es seule et... Oui, vous êtes fatiguée parce que vous portez à bout de bras cette intendance, la responsabilité de ce vignoble. Il y a combien de personnes qui travaillent d'ailleurs sur ces terres?
Sur place, en permanence, seulement 3. Et puis au moment des vendanges, là on est très nombreux, au moment où
c'est
on met en bouteille,
jusqu'à
là, il y a,
combien
très nombreux, il y a 25 personnes tout d'un coup. Mais ça, c'est
donc vous
moment...
devenez chef de tribu.
Oui, si si, c'est fatigant mais c'est impossible d'arrêter. Vous avez fait croire à un rêve et vous l'avez construit, personne ne m'a forcé, m'a obligé, je l'ai inventé, comment je fais maintenant? À un moment donné, j'ai eu un problème de distribution effectivement par rapport au vin et j'ai appelé quelqu'un qui fait un grand vin en France et qui m'a dit « Mais Carole, distribuez-le vous-même ». Je lui ai dit « Vous êtes malade, c'est pas mon métier ». Et il m'a dit « Mais vous les avez, les clients, vous les connaissez ». Donc je suis allée voir mon vigneron pour lui dire « Après toute cette aventure, on arrête ». Et j'ai commencé ma phrase et j'ai vu que je le tuais. Et j'ai commencé en lui disant « J'arrête ». Et j'ai fini ma phrase pour lui dire « Je le fais et je continuerai, je n'arrêterai pas parce que sinon c'est... » C'est jeter des années de ma vie, c'est détruire mon rêve, celui des autres, faire du mal à... Je ne peux pas arrêter. Voilà, c'est impossible.
Suite de l'entrevue avec Carole Bouquet dans un instant. Elle nous parlera de ses fils et de son rapport avec le public.
Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie continue sur Europe 1. Carole Bouquet nous décrit sa relation avec ses fils, avec ses amis italiens et bien sûr son rapport au public.
Carole Bouquet, vos deux fils sont des hommes. L'aîné est producteur de cinéma, le plus jeune metteur en scène. Vous deviniez quand ils étaient enfants qu'ils n'échapperaient pas à l'univers de leur mère?
Ah non, pas du tout. Non, je ne les ai pas élevés du tout pour qu'ils viennent dans mon univers. Je crois que j'ai même essayé le... C'est pas que j'ai pas voulu qu'ils le fassent, ce métier. J'ai essayé de leur donner le plus de liberté possible pour qu'ils puissent inventer leur vie. Parce que je ne pense pas du tout que seul mon métier est intéressant... Pour moi, médecin, professeur, boulanger, pâtissier, vous pouvez me citer, tous les métiers du monde sont intéressants.
Alors je vais poser la question d'une autre façon, Carole. Le père de votre fils aîné, Dimitri, est le producteur de cinéma trop tôt disparu, Jean-Pierre Rassam, personnage charismatique que Coppola, par exemple, avait voulu avoir à ses côtés quand il a monté son film Apocalypse Now. Donc, est-ce qu'on peut parler à la fois d'ADN artistique et d'héritage affectif?
Je crois que malgré moi, parce que c'est pas ça que j'ai voulu. Mais j'en suis très heureuse. Mais c'est pas pour ça que je les ai élevés. C'est pas en pensant les emmener avec moi dans mon aventure. Je voulais qu'ils aient la leur. Mais effectivement, pour eux, il est normal, facile. Ils sont chez eux sur un plateau de cinéma, ça les impressionne pas du tout.
Ils ont grandi.
Moi, ça m'a impressionné quand j'avais 18 ans.
Vous les avez souvent emmenés, vos deux garçons, sur les plateaux de cinéma ?
Pas sur les plateaux. Enfin, pas sur les plateaux eux-mêmes quand je travaillais. Mais par contre, quand je partais longtemps faire des films, je les emmenais avec moi. Et on faisait l'école dans les hôtels, dans les maisons, enfin, où je devais aller tant que ça a été possible. Et puis à partir du moment où un de mes fils a été trop grand, à ce moment-là, j'ai arrêté. Et je suis devenue sédentaire. Donc, espèce de vie de saltimbanque, oui. Mais pas avec les acteurs. En même temps, il y avait tout leur univers à eux. Pendant que leur mère faisait tourner les ballons sur son nez, comme dit l'autre.
Aujourd'hui, vos deux fils vous conseillent sur vos choix de films et sur la manière d'habiter vos rôles ?
Non, je crois qu'ils me regardent amusés. Je vois de temps en temps. Ils pensent que, ça me surprend toujours, ils pensent que je suis menteuse.
Non.
Moi, je trouve que je raconte les histoires toujours en deçà de ce qu'elles sont. Et eux pensent exactement le contraire. C'est-à-dire que si je dis que quelque chose est grand, c'est parce que je pense qu'il est immense. Et eux vont penser le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, oh, en fait, c'est tout petit, mais elle nous dit. Donc, ils pensent que je mens en permanence et je ne comprends pas, ça me rend folle. Je ne comprends pas d'où ça vient. Et ils en rient entre eux. Ils ricanent.
À cause de ce métier d'actrice ?
Oui, mais c'est
sans parler avec
ça,
tant de conviction des mots des autres. Ça, c'est extraordinaire. Vous venez de dire, ça n'est pas ça, mon métier.
Non, mon métier, c'est pas de mentir, c'est de raconter l'histoire des autres, pas de mentir sur moi. Donc j'arrive pas. En plus, j'arrive pas à les convaincre. Hein. Ils rient, ils se regardent, ils ricanent, ils ne croient pas à ce que je dis.
Bon, en tout cas, en ce qui concerne vos rôles, vous avez vraiment l'art du contre-pied, Carole Bouquet, parce que vous avez été une James Bond girl. Vous avez joué Phèdre au théâtre, Lucie Aubrac à la télé. La critique a salué votre talent comique dans des comédies. Est-ce qu'aux États-Unis, vous auriez pu avoir la carrière qui est la vôtre en France ?
Je n'ai pas la prétention d'être... Mais je pense que Meryl Streep a une carrière incroyablement diversifiée et au théâtre, au cinéma, dans toutes sortes de rôles. Donc je pense que c'est possible dans n'importe quel pays.
Dans le métier d'acteur, il y a un rapport de séduction manifeste avec le public. Il y a ce fameux travail sur l'image. Est-ce que les acteurs n'ont pas tendance souvent à se comporter comme des actrices ?
Non, je ne crois pas. Mais peut-être parce que je suis complètement... Je veux dire, mes fils se moquent. Peut-être que je suis déformée, que je ne vois rien de nos particularités, je dirais. Peut-être que... Pour moi, c'est tellement normal comme métier que je ne me rends pas bien compte de... Voilà.
Les personnes qui travaillent avec vous, Carole Bouquet, ouais, sur l'île de Pantelleria, elles vous questionnent sur ce métier ? Elles savent que vous êtes en France une star.
Pas du
Ça
tout.
Les intrigue ?
Pas
elles n'en parlent jamais ?
Non, pas du tout. Ils n'ont pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Ils savent bien que je suis actrice. Je veux dire, mais ils ne savent pas ce que je suis en train de faire. Non, non, pas du tout. Ils travaillent la terre du matin jusqu'au soir. C'est leur passion. Quand je dis, moi, il me dit, écoute, moi, je fais le vin, ce que me dit mon vigneron, démarre-toi pour le vendre. Et que je lui dis par moment que c'est beaucoup de travail pour moi. Il ne comprend pas du tout de quoi je parle. Et c'est pas la peine que j'essaye. Non, non, non.
Et on retrouve Isabelle Morizet et Carole Bouquet pour la dernière partie de leur entretien. Carole Bouquet nous confie qu'il lui arrive d'être mélancolique.
Carole Bouquet, est-ce qu'il est vrai que dans votre appartement, vous avez noté à plusieurs endroits cette phrase de Flaubert : prenez garde à la tristesse, c'est un vice.
Il n'y a plus, il y avait.
Il y avait.
Ça aussi, c'est une chose qui enquiquinait beaucoup mes enfants. Quand j'aimais certaines phrases de la littérature, je les écrivais sur les murs pensant que ça allait leur
servir. Ah, carrément sur les murs ?
Oui, je les écrivais sur
les
murs.
Vous êtes une tagueuse.
J'étais une tagueuse, oui, à la maison. Et parce que je pensais que ça leur... ils trouvaient ça insupportable, alors j'ai arrêté. Parce qu'au contraire, ils ne les lisaient pas. Ils passaient.
On vous croit hyperactive avec vos vues parallèles de star de cinéma, de viticultrice. Mmh. Mais ça signifierait que vous pouvez avoir un penchant assez naturel pour la mélancolie.
Oui. Oui, c'est quand je disais tout à l'heure, je me fatigue moi-même, je passe de l'un à l'autre. Je suis hyperactive par moment et puis par d'autres moments, je pourrais rester effectivement des jours, des semaines dans un lit. Moi, il y a un des personnages que je préfère de la littérature qui s'appelle Oblomov, qui est un homme qui n'arrive pas à se lever, écrit par un Russe qui s'appelle Goncharov, qui est un personnage du 19e siècle, qui projette toute la journée de se lever. C'est-à-dire déjà, il pense à sa pantoufle, il ne va pas y arriver, mais il y pense et c'est un des personnages qui m'émeut le plus de la littérature.
On va parler de votre actualité car vous êtes à l'affiche du film Mauvaise fille, adapté du roman de Justine Lévy, roman qui avait été sélectionné pour le Goncourt. Alors tout le monde parle de ce premier film comme d'une révélation et vous incarnez dans ce film un rôle radical, Carole Bouquet.
J'incarne une mère qui a beaucoup manqué à son enfant parce qu'elle est très fantasque, elle-même enfantine encore et absente. Voilà. La maman tombe malade et va mourir. Et cet enfant qui est enceinte à ce moment-là a terriblement, horriblement l'idée que le fait d'être si vivante, si joyeuse et le fait qu'elle va donner la vie est en train aussi de tuer sa mère. Elle tombe enceinte sans l'avoir voulu, si je puis dire. Et elle va vivre cette grossesse sans arriver à le dire à sa mère. Car au moment où, au fond, elle tombe enceinte, sa mère tombe malade. Et elles ne vont pas arriver à se parler. Est-ce que elle ne va jamais oser lui dire qu'elle est enceinte alors qu'elle est très enceinte? Donc on ne sait pas, au fond, si sa mère ne veut pas le voir, si elle ne lui dit pas parce qu'elle sait qu'elle ne va pas l'entendre, de toute façon, ou est-ce qu'elle a vraiment peur de lui faire du mal puisqu'elle porte la vie
et que sa maman s'en va.
C'est tout ça et c'est dit à travers un très beau titre qui est le titre du livre qui est Mauvaise fille. Jamais, puisque c'est un livre de Justine Lévy, Justine ne dira mauvaise mère, elle dit mauvaise fille parce qu'elle est incroyablement pudique, parce que c'est une déclaration d'amour à sa mère qui lui a terriblement manqué et en même temps elle ne la juge pas. Pour autant, elle lui hurle de temps en temps des vérités qui sont très dures, mais elle n'a pas un jugement définitif du tout sur le comportement de sa mère aujourd'hui, pas du tout.
Il y avait beaucoup de talents en train d'éclore autour de vous sur ce tournage. Alors Patrick Mill, dont c'est la première réalisation, et puis Isia, la fille de Jacques Higelin, qui tient donc le premier rôle et qui avait l'occasion pour la première fois d'hypnotiser des caméras de cinéma.
C'est le cas de le dire, elle hypnotise les caméras, elle est douée de façon bluffante.
Instinctive.
Oui, pas seulement, c'est-à-dire instinctive, oui, mais en plus elle sait refaire. Donc elle a un savoir-faire. Elle est très impressionnante ici, vraiment. Et elle est d'une joie, elle est d'une compagnie, elle est... Ah, j'ai l'impression de boire mon vin. Non, parce que c'est un délice d'avoir Isia à côté de soi. Elle fait un bien fou. C'est-à-dire, ça aurait dû être le contraire. J'aurais dû lui tenir la main.
Bon, vous avez deux garçons magnifiquement réussis. Vous auriez aimé avoir une fille comme Isia.
Ah oui, oui, oui. Mais elle n'a pas besoin de moi. Elle a des parents formidables. Mais Isia est un cadeau, vraiment. Et quant à Patrick, pour premier film, et les acteurs qui font des premiers films ne sont jamais des débutants. Car on apprend beaucoup en étant acteur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a envie de faire de la mise en scène. Si jamais on a envie de la mise en scène, on n'arrive pas sans bagage. On arrive déjà avec un savoir qui est très, très grand. Car on a appris pendant toutes ces années sur un tournage comment on fabriquait un film.
Justement, avec l'expérience qui est la vôtre, Carole Bouquet, quand vous tournez dans une première œuvre, vous devez forcément avoir à la fois un œil de metteur en scène et presque de script quand vous êtes sur le plateau. Même lorsqu'on a dit moteur, vous repérez tout, rien ne vous échappe. Et vous, de temps en temps, vous conseillez...
Non, surtout pas à un metteur en scène. Il faut au contraire être vraiment à ses côtés. Pour être vraiment à ses côtés, il ne faut surtout pas parler à sa place. Donc si on décide de partir à l'aventure, il faut oser aller jusqu'au bout de cette aventure et surtout pas être castratrice. Parce que sinon, vous allez lui faire du mal et donc il valait mieux pas le faire.
Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, Carole.
C'est la fin de cet échange intime entre Isabelle Morizet et Carole Bouquet. Demain, dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, l'invité sera Pierre Billon, directeur artistique, compositeur et chanteur.